Bien, chers camarades et amis, bonsoir. En programmant les élections régionales en pleine COP21, cette grande messe écologiste qui réunit à Paris la quasi-totalité des chefs d'État de la planète, nul doute que Hollande voulait utiliser la stature internationale que lui donne cet événement pour limiter la déroute électorale annoncée par le PS pour ces élections. Les ignobles massacres... J'ai un petit problème moi, avec tout ça, parce que je vois plus rien, là. Il y a beaucoup de micros, là, je sais pas si...
C'est la gloire.
Bon, c'est la gloire, oui. Les ignobles massacres du 13 novembre à Paris n'étaient, eux, pas programmés. Mais en utilisant sans vergogne l'émotion suscitée dans le pays pour en appeler à l'Union nationale et pour endosser une nouvelle fois sa posture de chef de guerre, Hollande espère ramener vers les urnes une fraction de l'électorat du PS qui s'apprêtait à les bouder. Mais toutes ces gesticulations guerrières, toutes ces postures sur l'avenir climatique de la planète ne suffiront pas, tout l'indique, le Parti socialiste et ses alliés vont recevoir une nouvelle gifle dans les urnes dimanche. Eh bien, cette déroute, le PS ne l'aura pas volée tant il a renié les rares promesses qu'il avait faites, tant il a trahi tous les espoirs que les classes populaires avaient pu mettre en lui. Non seulement Hollande et Valls ont laissé le chômage exploser. Il y a 1 million de chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis l'arrivée de Hollande à l'Élysée, soit une moyenne de 1 000 en plus par jour. Mais ils ont contribué à dégrader les conditions d'existence des classes populaires. Depuis plus de 3 ans, Hollande a mis ses pas dans ceux de Sarkozy pour aggraver toutes les mesures anti-ouvrières. Attendez, décidément, j'ai quand même un petit problème. Il est trop bas, ça me fait baisser la tête. Voilà. C'est la technique. Pas trop quand même, non ?
C'est bon.
Depuis plus de 3 ans, Hollande a mis ses pas dans ceux de Sarkozy pour aggraver toutes les mesures anti-ouvrières, que ce soit sur les impôts, les retraites, le temps de travail, les droits des salariés et ou de ceux qui les défendent, comme les militants syndicaux, les médecins du travail, les inspecteurs du travail. Depuis plus de 3 ans, Hollande satisfait toutes les exigences du patronat, faisant tomber les unes après les autres les quelques protections dont bénéficiaient les travailleurs. En 2013, avec la loi de sécurisation de l'emploi, il a permis aux patrons d'introduire encore plus de flexibilité dans le temps de travail et de nouvelles baisses de salaire. Au début de l'été, la loi Macron a facilité les procédures de licenciement, généralisé le travail du dimanche, restreint les prérogatives des prud'hommes. Mais l'encre de la loi était à peine sèche que Hollande, Valls et Macron sortaient un nouveau projet de leur carton. Ils ont confié à Robert Badinter, l'ex-ministre de la Justice de Mitterrand, la mission de réécrire le Code du travail. La mission de Badinter est de remplacer la loi générale qui s'appliquait à tous les salariés par des accords locaux d'entreprise, signés par des syndicats complaisants, pour définir les salaires, les conditions de travail, bref, toute la vie des travailleurs au sein des entreprises. Bon, il est trop loin, c'est pas possible. C'est déjà ce type d'accords locaux, baptisé « accord de compétitivité », qui a permis aux directions de Renault ou de PSA d'augmenter le temps de travail et de supprimer des RTT, tout en bloquant les salaires. C'est ce type d'accord qui a permis à la direction de Smart en Lorraine de faire un grossier chantage du style « ou vous acceptez de travailler 39 heures, de perdre des jours de RTT ou on supprime des emplois ». Avec ces accords, les patrons gagnent sur tous les tableaux. Ils rallongent le temps de travail, ils augmentent la productivité et ils suppriment quand même des emplois. Cela fait longtemps que les patrons ou leurs porte-parole pleurnichent en boucle sur ce fameux code du travail qui serait trop épais ou trop rigide. Voyez-vous, s'il y a 1 000 chômeurs de plus chaque jour, si les patrons n'embauchent qu'au compte-gouttes et quasi exclusivement des précaires, en intérim ou en CDD, ce n'est pas à cause de la crise profonde que traverse l'économie capitaliste. Ce n'est pas à cause de l'avidité sans limite d'actionnaires déjà gavés de milliards. Non, ce serait à cause des lourdeurs du Code du travail. Dans les faits, il y a belle lurette que les patrons ont trouvé le moyen de contourner la loi quand elle les dérange. Le Code du travail, le plus souvent, bien, il s'assoit dessus. Prenez le cas des CDD et des intérims. Selon la loi, une entreprise ne peut recourir à de tels contrats que pour un surcroît momentané de travail. Ou pour remplacer un salarié absent. Dans toutes les entreprises, cette loi est ouvertement bafouée. En particulier à la production, dans l'automobile ou la plasturgie, où les intérimaires sont presque plus nombreux que les embauchés. Chez Ivecobus, par exemple, à Annonay. Par exemple, l'usine dans laquelle Macron est venu vanter sa loi sur la libéralisation des transports, sur 2300 salariés, il y a aujourd'hui plus de 1000 intérimaires. Et derrière tous les panneaux lumineux à l'entrée des usines qui annoncent fièrement 300 jours sans accident du travail, combien y a-t-il de travailleurs qui ont subi des pressions pour accepter un poste allégé après un accident, voire qu'ils restent chez eux, mais surtout sans déclarer le moindre accident. Dans cette société capitaliste, faire respecter simplement la loi est un combat permanent. Pour y arriver, il faut que les travailleurs et les militants syndicaux se mobilisent par des actions collectives ou à défaut par des recours juridiques. Et encore, ces derniers sont bien aléatoires. Avez-vous déjà vu un préfet envoyer la police à 6 heures du matin pour arrêter un employeur qui a licencié de façon abusive un salarié? Ou lorsque ses négligences ont provoqué la mort d'un travailleur? Même quand les patrons sont pris la main dans le sac à violer les règles, ils trouvent le soutien compréhensif de magistrats et de procureurs qui appartiennent à la même classe sociale qu'eux. Mais pour les patrons, tout cela ne leur suffit pas. Ils veulent que la loi les autorise explicitement à exploiter sans entrave et sans limite les travailleurs. Ceux qui ont un emploi doivent être disponibles 24 heures sur 24. Ils doivent accepter les heures supplémentaires, accepter de travailler les dimanches ou les jours fériés, quitte à chômer quelques mois ou quelques semaines plus tard. Tant pis si des millions d'autres croupissent au chômage, de moins en moins bien indemnisés. Le patronat veut revenir sur toutes les concessions qu'il avait dû faire dans les décennies postérieures à la Deuxième Guerre mondiale, dans cette période où le plein emploi avait permis aux luttes des travailleurs d'arracher des droits et de meilleurs salaires. Il veut en finir avec le CDI, avec le SMIC, avec les cotisations pour financer les retraites, le chômage ou la maladie. Il veut le retour à une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci. Et dans cette entreprise de démolition, le patronat trouve à ses côtés indistinctement les trois partis qui aspirent à gouverner le pays, le PS, la droite et le Front national. Ces partis, qui en appellent aujourd'hui à l'unité nationale, sont tous d'accord pour faire les poches des travailleurs, des retraités, des chômeurs, pour restreindre les droits des travailleurs en général et des militants ouvriers en particulier. Ce qu'ils appellent l'Union nationale, c'est l'union pour défendre les intérêts des capitalistes français. Et on peut parier que l'état d'urgence et la guerre contre le terrorisme vont être utilisés sans vergogne pour nous faire avaler de nouveaux reculs, de nouveaux sacrifices. On les entend déjà nous expliquer qu'il est indécent de revendiquer tant l'heure est grave. Comme il y a quelques jours, le patron de Solvay l'a dit ici à Saint-Fons. Preuve s'il en fallait. L'état d'urgence, instauré sous le prétexte de traquer les terroristes, a jusqu'à présent servi à interdire les manifestations de tous ceux qui s'opposent à la politique du gouvernement, des retraités mécontents aux militants pour le climat, en passant par ceux qui soutiennent la liberté de circulation pour les migrants. Pour financer les bombes qu'Hollande déverse sur la Syrie et l'intensification de ses interventions militaires au Moyen-Orient et en Afrique, toutes ces interventions militaires votées et approuvées comme un seul homme par tous les députés, on peut être certain que le gouvernement ne va pas revenir sur les milliards versés au patronat sous forme de crédit d'impôt, de compétitivité, de crédit recherche, de baisse de charges multiples. Il ne va pas cesser de rembourser les dizaines de milliards d'euros d'intérêts versés chaque année aux banques. Non, il va à coup sûr imposer de nouveaux sacrifices dans tous les services publics utiles à la population. Il va tailler un peu plus dans les dotations des communes qui sont déjà à la diète. Il va faire un peu plus les poches des plus modestes, des retraités, des handicapés. Le gouvernement est capable des pires bassesses vis-à-vis des classes populaires. Il a fallu l'approche des élections régionales pour que Hollande et Valls fassent volte-face devant la stupeur des retraités modestes devant payer pour la première fois les impôts locaux dont ils étaient jusque-là exonérés. Pour justifier ces ignominies, ces politiciens nous rabâchent que c'est la crise et qu'il faut accepter des sacrifices. Mais si le capitalisme est incontestablement en crise, les grands groupes, les PSA, Sanofi, Dassault, Michelin, Renault Trucks et compagnie n'en souffrent pas. Bien au contraire, ils voient leurs profits s'accroître. Le groupe pharmaceutique Sanofi, un des plus rentables du pays, bien implanté à Lyon, a réalisé 7 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier. Eh bien, il n'a payé aucun impôt, puisque l'État l'a gratifié dans le même temps d'un crédit impôt compétitivité, le fameux CICE, de 150 millions d'euros. Et pourtant, à peine le dernier plan de suppression d'emplois terminé, la direction de Sanofi annonce qu'elle supprimera encore plusieurs centaines d'emplois chaque année d'ici 2020. Pour améliorer la productivité, Sanofi s'apprête à augmenter le temps de travail et à supprimer des jours de RTT. Quand la direction du groupe Volvo a décidé de supprimer plus de 500 emplois dans les services commerciaux de Renault Trucks au printemps dernier, qui s'ajoutent aux milliers déjà supprimés dans ces diverses usines de la Suède au Brésil, elle l'a avoué elle-même, c'est pour satisfaire les actionnaires qui exige une rentabilité supérieure à 10%. Et malgré cela, l'État et les régions arrosent ces grands groupes d'argent public. Lors de la dernière session, juste avant de mettre la clé sous la porte, la région Auvergne, celle qui va être fusionnée avec la nôtre, a voté une subvention exceptionnelle de 6,3 millions d'euros, d'argent public donc, pour une filiale de Michelin. Au même moment, Michelin annonçait la fermeture de 3 usines en Europe, supprimant ainsi 1 600 emplois. Chaque retraité lésé par ce gouvernement, chaque handicapé, chaque étudiant pauvre, chaque veuve de fonctionnaire qui verra sa pension diminuer doit le savoir si demain la vie sera encore plus difficile pour eux, s'il leur faudra se serrer la ceinture, baisser le chauffage cet hiver ou restreindre les dépenses d'alimentation, c'est pour que leur argent aille alimenter, sous une forme ou sous une autre, les caisses d'entreprises florissantes et de leurs actionnaires multimilliardaires. Chaque salarié des services publics, infirmière, postier, éboueur, enseignant, confronté à la diminution des salaires, à la réduction de postes et de moyens, doit savoir que cette austérité imposée l'est pour garantir les profits de riches financiers et industriels. Voilà la vérité, voilà la politique cynique et révoltante de ces dirigeants qui se disent socialistes à la tête du pays ou des régions. Cette politique anti-ouvrière a fait perdre au PS toutes les élections depuis 2013. Et elle va lui faire perdre celle-ci. Mais le système électoral est fait de telle sorte qu'il sera remplacé à la tête des régions par une des autres écuries politiciennes qui se disputent le pouvoir. Jusqu'à ces dernières années, il y avait l'alternance entre deux partis, l'UMP, devenu Les Républicains, et le Parti socialiste, flanqué des écolos, des radicaux et du Front de gauche. Le FN a profité de l'usure rapide des partis au pouvoir du fait de la crise. Il se pose depuis des années en parti anti-système. S'appuyant sur les illusions électorales semées par la gauche gouvernementale, il a récupéré des électeurs déboussolés et écœurés, qui pensent « cela, on les a jamais essayés ». Le bipartisme a laissé la place au tripartisme. Au lieu de deux écuries politiciennes candidates à gérer les affaires de la bourgeoisie, il y en a désormais trois. Que le FN soit en situation de diriger deux, peut-être trois grandes régions du pays, est certes grave. C'est le signe du progrès des idées réactionnaires dans le pays. C'est le résultat direct des passages successifs de la gauche au pouvoir, où elle a trompé et trahi ses électeurs. L'accès du FN au pouvoir, ne serait-ce qu'à l'échelle des régions, renforcera les groupes ou les individus les plus réactionnaires, les plus racistes, les plus anti-ouvriers, hostiles aux militants syndicaux et aux militants communistes. Mais ces idées réactionnaires ne sont plus l'apanage du FN. De Nadine Morano et sa sortie sur la France, pays de race blanche, à Laurent Wauquiez, candidat à la droite dans la région, qui veut ouvrir, lui, des camps d'internement antiterroristes pour toutes les personnes fichées, il n'y a aucune frontière entre la droite et l'extrême droite. Quant au PS, il a profité des attentats pour reprendre quasiment tout le programme sécuritaire du FN. Sur le terrain économique, le FN, à la tête des régions comme à la tête du pays, mènera fondamentalement la même politique pro-patronale que les deux autres larrons, en plus musclée. Depuis la passation de pouvoir entre le père et la fille, pour élargir son électorat et pour gagner les élections, le FN s'était mis à draguer les ouvriers et les classes populaires. Sur son fonds de commerce traditionnel, la haine des étrangers, le racisme anti-immigré ou anti-musulman, Marine Le Pen avait adapté son discours et développé quelques couplets sur les travailleurs pauvres, mais français bien sûr, qui travaillent dur et sont mal payés. Mais cela n'aura pas duré bien longtemps. Plus le FN se rapproche de la mangeoire, plus il revient à un discours de droite bien classique, car il cherche à rassurer les patrons. Au cours de cette campagne des régionales, le FN vient de changer une nouvelle fois son discours. Christophe Boudot, qui conduit la liste du FN dans la région, ne rate pas une occasion de vanter les chefs d'entreprise présents sur sa liste. Tout comme ses deux concurrents, il promet au patron de nouveaux chèques. Boudot, qui a déjeuné dernièrement après Wauquiez et Kéran avec le patron de Michelin, a déclaré en sortant, je cite, « Je l'ai rassuré sur le fait que le FN était l'ami des entreprises ». Eh bien, cela doit servir d'avertissement à ceux des travailleurs qui se laissent tenter par le vote FN en croyant au boniment et aux œillades d'une Le Pen ou d'un Philippot en direction des pauvres. Au pouvoir, il mènera la même politique anti-ouvrière que ses concurrents. L'épisode du coup de colère des travailleurs d'Air France face aux 2900 suppressions d'emplois est une bonne illustration de la haine de classe de tous ces partis contre les travailleurs qui osent se défendre. Nous avons été nombreux à nous sentir solidaires des travailleurs d'Air France, nombreux à partager leur rage face au énième plan de suppression d'emplois, nombreux à nous dire que ces DRH chemises à l'air ne l'avaient pas volé. Mais tous les dirigeants des grands partis, eux, ont apporté illico leur soutien au DRH. Ils ont tous condamné les travailleurs d'Air France. Valls a traité les salariés de voyous, Sarkozy a parlé de chienlit, tandis que Maréchal Le Pen parlait de lynchage. Le gouvernement a fait donner la police et sa justice en arrêtant ses salariés comme de dangereux voyous. La direction d'Air France a licencié 5 salariés et mis à pied 11 autres. Ils ont été licenciés, les 5, et sanctionnés pour avoir défendu leur travail, et ce n'est pas fini. Le gouvernement et le patronat veulent faire un exemple. Les travailleurs d'Air France sont convoqués au tribunal correctionnel demain, 2 décembre. Cette crapulerie est significative de la politique actuelle du gouvernement et du patronat. Licenciement et répression. À l'occasion de ce procès, la CGT et d'autres syndicats appellent les militants syndicaux, les travailleurs, à se rassembler devant le siège d'Air France à Paris. À Lyon, un rassemblement est organisé demain à 11h30 devant l'agence d'Air France sur le quai Jules Courmont, pas loin de Bellecourt. Eh bien, nous devons, nous les travailleurs, nous sentir solidaires et défendre ceux d'Air France, car les défendre, c'est nous défendre. Et puis, être nombreux demain, eh bien, ce sera aussi une façon de montrer que l'état d'urgence ne réussira pas à faire taire ceux qui s'opposent à la politique anti-ouvrière de ce gouvernement. Ce sera un moyen d'opposer l'unité des travailleurs pour défendre leurs intérêts à leur union nationale derrière les intérêts patronaux. Alors les élections de dimanche prochain sont une autre occasion pour les travailleurs de prendre la parole et d'exprimer sans ambiguïté leurs intérêts de classe. En votant pour la liste Lutte ouvrière, ils diront qu'ils refusent d'être les sacrifiés de la crise, qu'ils ne supportent plus de subir plan de licenciement sur plan de licenciement, alors même que les entreprises font des profits, qu'ils ne sont ni trop payés, ni trop protégés et qu'ils travaillent déjà bien trop. Ils diront que ce n'est pas l'existence du Code du travail ni du CDI qui explique les plans de licenciement, mais l'avidité des actionnaires et des banquiers. En votant pour notre liste, ils diront que la seule façon de combattre le chômage, c'est d'interdire les licenciements. Ceux qui ont un emploi se crèvent à la tâche tandis qu'il y a des millions de chômeurs dehors qu'ils ne demandent qu'à pouvoir travailler. Face à cette absurdité, il faut imposer la répartition du travail entre tous les salariés sans baisse de salaire, à commencer par l'embauche immédiate des intérimaires et des CDD. Face à la baisse de notre niveau de vie, aux salaires gelés, aux pensions qui ne permettent pas de vivre décemment, il faut exiger une revalorisation des salaires et des retraites, il faut exiger leur indexation automatique sur l'inflation réelle. Pour financer ces mesures, vitales pour enrayer l'appauvrissement de tous ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, eh bien il faut prélever sur les profits, sur les dividendes de la grande bourgeoisie et de ses hommes de main. Combien d'emplois pourraient être créés et financés avec les 7 à 8 milliards d'euros de bénéfices annuels du groupe Sanofi ? Les milliards valsent au-dessus de nos têtes, à la bourse, sur les comptes en banque des multinationales. Pour acheter Allergan, le géant de la pharmacie, Pfizer vient de mettre 160 milliards d'euros sur la table. Comme vous, vous sortez un billet de 100 euros. Et encore, c'est pas facile. Outre des fermetures de sites prévisibles, avec des suppressions d'emplois, Pfizer va en profiter pour délocaliser son siège en Irlande, faisant passer son taux d'imposition de 25 à 18%. Alors voter pour Lutte ouvrière, c'est affirmer qu'il faut contrôler les comptes des entreprises, exiger la levée du secret des affaires, du secret industriel et du secret bancaire. Le secret permet aux banquiers et aux actionnaires de frauder à grande échelle, vis-à-vis des États, de frauder le fisc, de préparer en toute discrétion des plans de licenciement et des fermetures d'usines, de mettre en œuvre des projets nuisibles pour la collectivité, pour la santé publique ou pour l'environnement. On nous jette à la figure que ces revendications sont utopiques quand elles ne sont pas délirantes. Mais les patrons et leurs porte-parole n'estiment ni utopique ni délirant de rétablir le travail des enfants, de prôner la retraite à 70 ans, la suppression du SMIC ou des congés payés. Les patrons estiment avoir le droit moral de demander tout et n'importe quoi pour maintenir leurs profits. Eh bien nous, nous estimons que les travailleurs doivent se sentir le droit moral de revendiquer des mesures élémentaires, non pour maintenir les profits de quelques parasites, mais pour permettre aux travailleurs qui font tourner toute la société de pouvoir continuer à vivre dignement. Évidemment, un tel programme ne pourra pas être obtenu par un bulletin de vote. Ces revendications ne pourront se réaliser sans que le monde du travail ne les impose au patronat et au gouvernement dans la lutte de classe. Mais les élections permettent de s'exprimer et voter lutte ouvrière, c'est approuver ces exigences vitales, c'est les faire connaître. Le regain de la combativité ne dépend pas de nous, mais l'exploitation et la soif de profit sans limite finira par le provoquer, c'est une certitude. La crise économique et ses conséquences, la société qui se délite, l'inquiétude face à la barbarie qui monte, pousseront tôt ou tard de nouvelles générations à chercher des explications et des solutions contre cette société capitaliste qui nous ramène en arrière. Nous, nous en avons la conviction. Mais pour que les futures luttes des travailleurs ne finissent pas dans les voies de garage, pour que la jeunesse trouve des réponses à ces questions, il faut que les idées communistes ne disparaissent pas. Il faut qu'existent des militants qui gardent comme programme le renversement du système capitaliste. Il faut qu'existe un parti communiste révolutionnaire. Ce parti ne se forgera vraiment que dans les luttes. Mais utiliser les élections pour regrouper ceux qui sont déjà conscients de sa nécessité, les rassembler avec le bulletin de vote lutte ouvrière est déjà un pas dans sa direction. Et telle est notre ambition dans ces élections. Alors, camarades, il ne nous reste que quelques jours pour convaincre autour de nous de voter lutte ouvrière. Il faut en particulier convaincre tous ceux qui s'apprêtent à ne pas aller voter, tous ceux qui pensent que ça ne sert à rien, que tous les politiciens sont les mêmes, qu'ils doivent faire ce geste politique. S'abstenir, il faut leur dire, c'est se bâillonner. Et laisser la parole au seul larbin politique du patronat, qu'il soit de gauche, de droite ou d'extrême droite. A l'inverse, voter dimanche pour la liste lutte ouvrière contribuera, même modestement, à ce que la classe ouvrière se prépare à relever la tête.